Le titre de cet atelier, c'est « Mère, épouse, femme, qui suis-je? » Qui suis-je? Je crois que souvent, parfois, on vit dans un débordement, un submergement, parfois une fatigue, parce qu'on a tellement de facettes en tant que femme, tellement de rôles à remplir. Et moi, je peux vous dire quelque chose, je sais qui je ne suis pas. Alors, juste vous dire, je ne suis pas une psychologue cet après-midi qui va vous donner les clés, les détails précis pour répondre à tous les besoins et les questions de votre identité. Je ne suis pas non plus une femme qui a fait un bac plus 37 en identité. Donc, je suis une femme, une mère, une épouse, simplement comme vous. Et ce que je veux vous partager cet après-midi, ce ne sont pas des découvertes personnelles, des pensées. Je veux vraiment qu'on regarde à la pensée de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu concernant l'identité de la femme? Parce que je crois que c'est ça le message le plus important. On peut savoir ce que le monde s'attend de nous, qu'est-ce que les livres disent, qu'est-ce que mon expérience dit, qu'est-ce que l'expérience d'une autre dit, mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit concernant mon identité. Vous savez, dans la vie, on va vivre différentes situations, des défis, des moments parfois difficiles, parfois des surprises de la vie qui seront des joies, parfois des peines, et qui vont amener un ébranlement dans notre identité, qui vont venir secouer notre identité, qui vont venir la défier, l'influencer. On a plusieurs rôles à jouer. Et je crois que c'est facile de comprendre que la femme peut rentrer dans un dépassement. Le thème de ce week-end, c'est « Inébranlable en Jésus-Christ ». Et vous savez, devenir quelqu'un d'inébranlable dans notre identité, c'est exactement ce que Dieu veut faire en nous. Il veut apporter une stabilité, une harmonie et un équilibre. Ce sont des termes qui vont souvent revenir dans toutes les facettes de notre vie, que ce soit d'être épouse, que ce soit d'être mère, que ce soit d'être femme, être amie, être patronne, parce que certaines d'entre vous, que ce soit d'être employée, de travailler. La femme est un univers très, très complexe, assez complexe. Elle a beaucoup de qualités et de potentiel que Dieu a mis en elle, que ce soit la compassion, l'empathie, la persévérance, le dévouement, l'abnégation de soi. C'est pour ça que souvent, elle s'investit tellement. Mais parfois, elle s'investit tellement et elle s'oublie tellement que c'est elle, à un moment donné, qui n'en peut plus. C'est elle, à un moment donné, qui est fatiguée, qui est découragée, qui est débordée. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous savez, chaque facette de la vie d'une femme a tout un univers. Et je me suis arrêtée juste pour regarder les compétences nécessaires juste pour être une mère. Et savez-vous quoi? Juste pour être une mère ou être une femme au foyer, j'ai découvert qu'il y a au-dessus de 29 métiers. 29. C'est comme s'il faut un bac plus 29 pour être une mère. Et les dames de mon église m'ont déjà, savent très bien ce que je vais dire, mais je vais vous le dire à vous. J'ai découvert que pour être mère, on est de cuisinière à pâtissière pour les anniversaires, mais encore décoratrice lors des déménagements. Chauffeur de taxi pour les activités du mercredi. Intendante du bâtiment, couturière. Elle fait aussi le pressing professionnel. Acheteuse et gestionnaire des stocks d'approvisionnement du frigo et du garde-manger. Coordonnatrice et organisatrice d'événements anniversaire-mariage. Elle est maître nageur pour apprendre à nager à ses poupons. Elle est détective pour découvrir le coupable des coups de crayon frais sur le nouveau papier peint du couloir. Par la suite, elle se transforme en juge pour donner sa sentence. Parfois, elle est avocate pour plaider la cause de ses enfants auprès des profs. Elle est plongeuse lorsqu'il n'y a plus de la vaisselle. Elle est institutrice pour enseigner l'école de la vie en passant par 1, 2, 3 et attache tes souliers. Elle est psychologue, pasteur, gardienne de nuit, infirmière, médecin, dentiste pour arracher les premières dents, nutritionniste, interprète. Elle seule peut traduire les mots d'un enfant de 2 ans. C'est vrai, hein? Surtout le nôtre. Elle est secrétaire pour coordonner les rendez-vous de tous, chanteuse pour endormir son poupon, coiffeuse et comptable. Donc, êtes-vous d'accord avec moi? Dieu a mis beaucoup de qualités. Alors, on peut très bien comprendre, juste en regardant cette facette-là, Parce qu'il faut vous dire qu'en étant ça, on est aussi épouse. Et parfois, on est épouse de pasteur ou d'autres choses. Et en plus, on est femme. Et en plus, on travaille parfois à mi-temps, à temps plein. Donc, c'est beaucoup. Alors, on peut comprendre qu'il y a parfois des moments vraiment où on ne se retrouve pas ou même on ne se comprend pas. Et nos chers magazines dans cette société essaient de décrire et de venir à la rescousse et d'essayer de donner un sens à notre existence, que ce soit au travers Prima, femme actuelle, femme d'aujourd'hui, femme de demain, femme pour toujours et tout ça. Ça foisonne de petits articles qui cherchent à alléger notre quotidien, nous donner des astuces, des trucs, et qui des articles aussi qui essaient de nous encourager à aller plus loin, à maximiser notre temps, notre potentiel, à accomplir notre rêve. Et parfois, oui, il y a des articles qui sont véridiques, qui disent « vous ne êtes pas des superwomen », mais avec tout le restant qu'ils mettent, on a l'impression qu'ils veulent qu'on soit des superwomen. Et c'est comme, c'est paradoxal ce qu'ils disent. Et vous savez, si on est supposément des superwomen, alors je me demande pourquoi. Pourquoi tant de dépression et de fatigue, de sentiments d'insatisfaction, d'incompréhension, de sentiments de ne pas avoir assez accompli, de quête de soi et de déception envers soi. Et ça, malheureusement, même dans le monde chrétien. Souvent, nous nous imposons des choses, on a des exigences envers nous que Dieu n'a même pas, que nos maris n'ont même pas envers nous, que les gens alentour de nous n'ont même pas. Et ce surmenage et cette fatigue a une cause très simple. Et elle est tellement simple que je me dis, ils vont dire, mais ça se peut pas, la pauvre sœur, elle n'a pas fait toute cette route juste pour nous dire ça. J'ai pas fait, moi, toute cette route pour qu'elle me dise ça. Mais vous savez, souvent, la cause de ce déséquilibre, de cette fatigue, de ce surmenage, c'est parce que le centre de notre vie n'est pas le bon. Le centre de notre vie n'est pas le bon. Et nous avons besoin de retrouver un mode de vie où Jésus est vraiment le centre. Lorsque Jésus est le centre de ma vie, il vient y apporter un équilibre, il vient y apporter une harmonie. Et si ma vie est chaotique, si elle est épuisante et déséquilibrée, c'est simple, c'est parce qu'il n'est pas le centre. Vous savez, on fait tous face à des défis, à des problèmes, à des surprises qui nous dépassent, des circonstances qu'on n'attendait pas. Et lorsqu'on est face à ces situations-là, on se dit, j'ai pas les moyens d'y faire face. On se sent même ébranlé dans notre identité, dans ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Et ça peut être dans différentes choses. Ça peut être, je dois changer de boulot, j'ai perdu mon boulot. Ça peut être, mon mari tombe malade, il est découragé. Ça peut être, moi, je tombe malade, je fais face à une maladie. Ça peut être une grossesse non planifiée qui arrive. Il y a plein de choses qui fait que, plein de circonstances qui fait que notre identité, elle est ébranlée. Ça peut être notre mariage. On s'imaginait, on avait des idées concernant le mariage et on vit une déception. Mais tôt ou tard, on vient et on se demande, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne m'as pas averti? Pourquoi, Seigneur, cette surprise? Pourquoi, Seigneur, ce défi? Pourquoi est-ce que c'est devant moi? Et on se sent, ça nous dépasse. Et on est devant la situation et on se dit, mais qui suis-je pour? Qui suis-je pour vivre ça, pour faire face à ça, pour qui suis-je? Et vous savez, j'aimerais qu'on puisse regarder cet après-midi à un modèle, à une personne qui a vécu exactement la même, je dirais, état d'âme, qui avait exactement la même question. Et je suis désolée parce que mon modèle n'est pas une femme. Je sais qu'on est dans une conférence de femmes, mais mon modèle est un homme. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Exode 3. Alors, vous allez probablement deviner qui sera notre personnage principal. Ça sera Moïse. Vous êtes des Moïses. Alors, c'est le classique. Moïse se retrouve au buisson ardent et Dieu lui dévoile le plan incroyable et rocambolesque qu'il veut faire avec Moïse. Et Moïse se sent submergé, se sent « c'est trop ». On va juste regarder ensemble Exode 3, 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël? » Dieu répondit, « Je suis avec toi. » Quatre petits mots. « Je suis avec toi. » Là, ici, c'est un homme de Dieu, le grand Moïse, un homme qui a été vénéré de génération en génération. Et un jour, il vient à poser cette question, « Mais qui suis-je? » Et en plus, vous savez, ce qui est important, ce n'est pas qu'il ait posé la question, mais c'est surtout à qui il s'est tourné pour poser la question. Il s'est tourné vers Dieu, et Dieu dit toujours la vérité, et Dieu dit toujours ce qu'on a vraiment besoin d'entendre. Dieu vient nous révéler quel est le fond et l'importance des choses. Et ici, regardez la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, c'est « Je suis avec toi ». Comme c'est fascinant. Moi, ça m'a fascinée quand j'ai lu ça. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Nous les voyons. Et le regard de Dieu n'est pas sur les choses que nous, nous regardons. On a l'impression que Dieu n'a pas la bonne réponse, et même on a l'impression que Dieu n'a pas entendu la question. Vous êtes d'accord avec moi? C'est comme si je vous dis « Quel est votre nom? » puis vous me dites « Il fait 35 degrés dehors. » Hein? Il demande à Dieu « Qui suis-je? » et Dieu dit « Je suis avec toi. » Moi, je me suis dit, il me semble, Seigneur, que tu aurais pu essayer de l'encourager, tu vois. Moïse, ça fait 40 ans que je te prépare dans le désert. Moïse, écoute, tu as été un fils adopté par Pharaon, tu es royal, tu as été chef des armées de Pharaon, tu es instruit, éduqué, tu sais lire, tu sais écrire, je mets Aaron à tes côtés, tu auras ma puissance et tout le tralala. » Mais Dieu ne répond pas, ne dit pas ça. Et souvent, quand on vit, nous, dans du dépassement devant un défi, on va vers Dieu et on se dit, c'est ce qu'on voudrait entendre comme parole. Mais je crois que Dieu, ce qu'il veut nous rappeler, premièrement, ce qui est le plus important, c'est qu'on sache qu'il est avec nous. Sa réponse a été tout autre. Et vous savez quoi? Dieu, dans l'examen, il a 20 sur 20. Il a la bonne note parce qu'il est Dieu et parce qu'il sait. On est dans un monde où ce qu'on veut travailler sur nous-mêmes et on regarde beaucoup à nous-mêmes. Et Dieu sait que ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de savoir que lui, il est là et qu'il est avec nous. Vous savez, nous possédons, désolée de vous dire ça, nous possédons une nature déchue. C'est vrai, nous venons à Jésus, nous avons une nature régénérée par le Saint-Esprit, mais la chair, elle est encore là. Et la nature déchue, c'est cette tendance instinctive, naturelle, de toujours vouloir s'imposer et de se mettre au centre de notre existence. Et dans son amour ici, Dieu vient changer les choses. Dieu vient remettre les choses à sa place. Lorsque Moïse dit « Qui suis-je? », eh bien, c'est comme si Moïse il se positionne au centre et il pense que tout dépend de lui. Et lorsque Dieu lui dit « Je suis avec toi », c'est comme s'il le remet à sa place, il l'enlève, pas de l'image complète, mais il fait juste dire « It's all about me ». Tout est à propos de moi et pas à propos de toi. Amen. Et c'est la même chose pour chacune d'entre nous ici. Quand Dieu dit « Je suis avec toi », il est en train de dire trois choses. « Je suis avec toi parce que c'est moi qui vais apporter l'équilibre dans ta vie et un ordre divin ». Je suis avec toi parce que si moi je suis avec toi, tu vas avoir l'opportunité d'aller beaucoup plus loin et d'aller au-delà de si tu croyais que tu étais seul et que tout dépend de toi. C'est pour ça qu'il lui dit « Je suis avec toi ». Il dit aussi « Je suis avec toi » parce qu'il veut que justement l'identité de Moïse soit inébranlable. C'est-à-dire que lorsque c'est Dieu qui est le centre, lorsque ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en moi, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je peux avoir mes hauts, je peux avoir mes bas, je peux me sentir spirituel, pas spirituel, je peux avoir chaud, je peux avoir froid, mais Dieu, lui, ne change pas. Amen. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est vraiment nous faire bénéficier d'une vie qui est riche et qui est profonde et qui est au-delà des barrières et des limites que nous pouvons nous imposer. En se mettant vraiment au centre, c'est, comment je dirais, donc l'équilibre parfait. L'homme n'a jamais été créé pour être au centre. Et la pire des illusions qu'on peut avoir, surtout en tant que femme, c'est de penser que tout tourne autour de nous. Au Moyen Âge, vous savez, les hommes pensaient que la terre, tout tournait autour de la terre. Et sans s'en rendre compte, nous, parfois les femmes, on a la même pensée moyenâgeuse. On pense que tout tourne autour de nous et que tout dépend de nous. Et que s'il y a un truc qu'on ne touche pas, qu'on n'y est pas, que ça va s'effondrer. Et parfois, je dois même dire qu'on fait en sorte qu'on ait besoin de nous parce que ça remplit bien notre identité, ça nous fait du bien, parce qu'on se sent désiré, hein? On se sent importante. Mais regardez ici, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Vous savez, même une fois chrétien, devenu chrétien, on vit souvent dans l'Ancien Testament. On vit dans l'Ancienne Alliance. On vit avec notre ancienne nature. On essaye avec notre « je me moi » de suivre Jésus. On croit, oui, on croit que le Seigneur nous a sauvés, a pardonné nos péchés, mais une fois devenue chrétienne, on essaie de se changer, de se sanctifier, de se transformer. On pense que c'est nous qui allons sauver notre famille, que c'est nous qui allons influencer et changer notre mari. On essaie de plaire à Dieu par nos propres forces. Et qu'est-ce qui arrive? Un épuisement spirituel. Et c'est ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'Ancienne Alliance, c'est « je dois faire et je dois être ». Le centre, c'est moi. Et si vous voulez juste discerner si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette façon de faire, eh bien, regardez votre réaction lorsque vous tombez. Peut-être que vous ne tombez jamais, vous ne péchez jamais, vous ne retombez jamais dans des anciennes habitudes ou dans des mauvaises tentations, dans de vieilles tentations. Mais si ça vous arrive, comme ça peut m'arriver à moi, regardez quelle est votre réaction. Est-ce que votre réaction, c'est d'accourir dans le lieu secret, au pied de Jésus, face contre terre, et vous écrier ceci? « Seigneur mon Dieu, je te promets de ne plus recommencer. » Avez-vous remarqué? « Je te promets de ne plus recommencer. » Ça dépend de nous encore. « Mon Père, mais où étais-tu quand j'avais besoin de toi? » C'est comme si on vit notre vie chrétienne tout seul et puis c'est à nous de tout faire. Ou peut-être aussi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi je suis comme ça, on rentre dans une auto-évaluation. Hein, on vient de tomber, on a péché, on est déçu de nous-mêmes, et là, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver des nouveaux moyens. On se dit, allez, je vais m'engager, je prends une résolution, c'est fini, je me relève, j'avance, je vais y arriver. C'est légitime, c'est correct et ça semble très spirituel, mais c'est un cri de repentance qui vient de la chair. C'est un cri qui est centré sur nous-mêmes et non centré sur la croix, sur ce que Jésus a déjà tout fait pour moi. Et ce genre de repentance, vous savez quoi? Il conduit notre nature, notre chair et notre moi à être déçus de nous-mêmes, de ne pas avoir réussi notre délivrance et notre changement. Et Dieu le laisse arriver parce qu'il nous aime. Il nous laisse arriver, aller au travers de ce passage pour qu'on puisse justement arriver au bout de nous-mêmes, parce qu'au bout de nous-mêmes, on va enfin le découvrir, lui, et on va enfin mettre nos yeux sur tout ce que lui a fait et tout ce que lui est. Comme je disais, au Moyen Âge, on croyait que tout tournait autour de la Terre. Et puis, plus tard, il y a des hommes qui ont vraiment découvert que, non, la Terre a tourné, elle faisait partie d'un système et qu'elle tournait alentour du Soleil. Et vous savez, c'est la même chose. Dieu veut faire la même chose avec nous. Il veut nous ouvrir les yeux et il veut mettre Christ au centre. Il veut que Jésus soit vraiment le centre et qu'il apporte l'équilibre en nous. La nouvelle alliance, c'est « Il est en moi et il agit en moi ». Les batailles et les combats, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas les miens, mais moi je vais simplement à ses pieds, je crois, je vais à lui et c'est lui qui va se battre pour moi. Dieu a réduit ses exigences à seulement une chose, la foi. Croyez. Le bon combat de la foi. Combattez le bon combat de la foi. Vous savez c'est quoi votre combat? Arrêtez de vous battre contre les péchés, arrêtez de vous battre à essayer de lire votre Bible en une année, arrêtez de vous battre pour dire « je vais avoir la vie de prière que j'ai toujours voulu et que ce soit tous les jours et que machin et tout ça ». Arrêtez. Ce qu'il vous faut, c'est être dans cette position de foi et dire « Seigneur, je crois, je te la donne ma vie de prière, je te la donne ma relation, je te la donne, Seigneur, mon identité de mère ». Je te donne toutes les difficultés, le manque de patience que j'ai, les montées de colère que j'ai, quoi que ce soit. et je crois et je m'attends que tu vas me transformer, que tu vas me changer. Amen. Savez-vous que la pensée que tout repose sur nous date depuis très, très, très longtemps? C'est depuis le début des âges. C'est né dans le jardin d'Éden, avec la première femme, avec Ève. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit « Créons l'homme à son image ». Non, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Alors, la volonté de Dieu, et encore même aujourd'hui et à l'époque, c'était que l'homme soit identique à Dieu, qu'il ait la même identité. Dans le dictionnaire, la définition d'identité, c'est ceci. Est le caractère de deux choses exactement identiques, de même nature. Voyez, dans identité, il y a le mot identique. Et puis, Dieu, la volonté de Dieu, c'était, et c'est encore aujourd'hui, qu'on représente ici-bas sur la terre ce que lui est dans les cieux. Maintenant, il faut découvrir, il est comment dans les cieux? Et les cieux sont comment? Eh bien, les cieux sont dans un état paisible. Les cieux sont dans un ordre divin. Les cieux sont dans un équilibre. S'il n'y aurait pas d'équilibre dans l'univers, les planètes se rentreraient dedans, il y aurait des explosions, il y aurait plein de choses. Les cieux sont dans un ordre parfait. Et puis, c'est ça l'appel de Dieu sur nos vies. Mais Satan est venu pour insinuer, apporter des doutes dans la femme. Et puis, il a amené Ève à regarder à elle-même. Et puis, il lui a dit, « Ne sais-tu pas que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous serez comme des dieux, vous posséderez la connaissance du bien et du mal. » Mais quel mensonge, parce qu'elle était déjà à l'image de Dieu. Elle était déjà à l'image de Dieu. Mais en introduisant cette pensée dans l'esprit de Ève, ce que Satan a fait, c'est qu'il l'a amenée à désirer à être indépendante. Qu'on soit celle qui gère nos vies, qui prenons toutes les décisions, qu'on n'ait pas à dépendre de lui. Dans le jardin d'Éden, tout a été inversé. Le centre était Dieu et oui, ça a été renversé et c'est l'homme qui est devenu le centre. Et le péché a tout abîmé, est venu déstabiliser. Et le péché, ou on peut dire Satan, a essayé de nous faire croire qu'on était le compensateur, qu'on était peut-être les réparateurs et même qu'on était ceux qui peuvent faire activer les choses. Mais merci Seigneur parce qu'il est venu à notre secours. Amen. Et par Jésus, par la croix, par la nouvelle nature en nous, nous pouvons retourner à ce premier appel d'être vraiment, selon la volonté de Dieu, être à son image et accomplir sur terre ce qui prend place dans les cieux. Si Dieu n'est plus le centre, c'est qu'il y a d'autres intérêts. Il y a d'autres choses qui vont être le centre. Ça peut être nous-mêmes. Ça peut être notre maison. Combien de femmes font tout pour essayer de trouver des sous dans le budget pour enfin acheter ce fameux canapé que je veux depuis longtemps? Ça peut être notre boulot. Ah non, moi, faut vraiment, si je ne travaille pas, je sens que je ne suis plus rien, je ne suis pas capable... Même si je pourrais travailler à mi-temps, mais non, je veux travailler à temps plein, je veux travailler, il me faut que je travaille à temps plein. Il n'y a rien de mal à travailler à temps plein, mais il faut juste que ça soit dans la bonne saison. Notre apparence peut être le centre. Combien de femmes, elles ne s'aiment pas et elles sont obnubilées par leur poids, et c'est le gym ci, le gym ça, l'achat ci, l'achat ça, le budget va pour ça. L'apparence peut être le centre. Nos enfants. Pour certaines femmes, les enfants prennent trop de place. Dieu nous a bénis avec des enfants, il veut qu'on élève nos enfants, mais il ne veut pas que nos enfants deviennent le centre de notre vie. C'est pour ça qu'il y a tellement de femmes qui, parfois, lorsque les enfants quittent, tombent en dépression parce qu'elles n'ont plus cette raison d'être, parce qu'elles ont tout leur monde était leurs enfants. Pour d'autres, c'est leur mari. Et si le mari vit une bascule dans son identité à lui, eh bien, elles sont bousculées aussi. D'autres, ça va être les amis. Il y a des femmes, c'est votre implication à l'Église. C'est le centre de votre vie. Et vous dites, c'est bien, parce que je le fais pour le Seigneur. Mais ça l'amène un déséquilibre. Vous êtes épuisée, fatiguée. Les enfants ne vous voient pas assez. Votre mari dit, ah mince, t'es jamais là. Ah, mais je suis à l'Église, hein? Je suis impliquée dans 2, 3, 4, 5 trucs. Je fais avancer le royaume de Dieu. C'est les pensées qu'on a. Je vous ai dit, hein, c'est un atelier. Donc, des fois, ça peut faire mal un petit peu. On peut se dire, oui, Dieu est le centre de ma vie, Justine. C'est vrai. J'aime que Dieu me bénisse, m'aide et me protège. Mais parfois, souvent, il n'est pas le centre. Un jour, moi, j'ai eu cette pensée-là, de donner la première place. Hein? Je peux dire que j'étais humblement fière de dire, Seigneur, je te donne la première place. Et puis le Saint-Esprit, rapidement, est venu, il m'a dit, donc s'il est en premier, qu'est-ce qui va être en deuxième et en troisième et en quatrième? Et le Seigneur m'a amené, il m'a dit, non, je ne veux pas être en premier, je veux être tout. Je veux être au centre. Si je suis tout et je suis au centre, je vais pouvoir affecter tout le reste. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Teresa l'a dit ce matin. Je puis tout par celui qui me fortifie, pas par moi-même. La nature nous parle du Créateur, comme je vous disais. Si on regarde juste le ciel, si on regarde juste les galaxies, avez-vous remarqué qu'il n'y a pas une planète qui sort de son orbite et qui se perd dans l'univers? Et nous, souvent, on est perdus. Il n'y a pas une planète qui rentre en collision avec une autre non plus. Mais nous, on a de la difficulté à gérer nos petites planètes. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu, le mettre au centre de notre univers pour qu'il puisse justement nous aider avec la planète de maman, la planète amie, la planète travail, la planète mari, la planète église, la planète, pour que tout puisse bien tourner, pour qu'il y ait un bel ordre, pour que tout puisse bien se faire. Rahab, qui a été une femme de foi, qui était une prostituée, a dit une grande phrase que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup interpellée. Lorsque les espions sont venus chez elle, elle a fait une déclaration très véridique. Elle a dit ceci, « Car le Seigneur, votre Dieu, est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre. » Moi, ça m'a parlé. Je crois facilement que Dieu est le Dieu des cieux là-haut et ici-bas. Et le Dieu de là-haut dans les cieux. Mais est-ce que je crois qu'il peut être le Dieu d'ici-bas sur la terre? Et est-ce que je veux qu'il soit le Dieu d'ici-bas sur la terre? Est-ce que je le veux dans mon agenda? Est-ce que je le veux dans mes décisions, dans ma gestion de vie, dans la vie de tous les jours? Est-ce que je le veux? Nous le croyons, mais est-ce que nous le voulons? Quand on arrive devant des décisions, est-ce qu'on se dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Jésus, c'est comme ça qu'il a vécu toute sa vie. Non ma volonté, mais la tienne. Et nous sommes appelés à être comme lui. On n'est pas plus grand que le maître. Donc, est-ce ta volonté, Seigneur? Même si c'est quelque chose de bien, même si ce n'est pas un péché, c'est quelque chose qui est légitime, mais est-ce ta volonté? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que c'est peut-être pour plus tard? Ou peut-être que ce n'est pas à moi de faire ça, mais c'est à quelqu'un d'autre de le faire. Là, vous me dites peut-être, « Ah, Justine, tu sais, moi, Jésus est au centre de ma vie et je peux te garantir quelque chose, je peux te le prouver, je peux te dire ceci, c'est que je suis fatiguée et il n'y a pas d'équilibre dans ma vie. » Eh bien, il y a soit deux choses que je vois, que moi j'ai vécues. Dieu peut être au centre de notre vie et parfois, il y a des tempêtes qui arrivent. Et c'est vrai que lors des tempêtes, eh bien, les choses peuvent être peut-être un petit peu déstabilisantes. On peut se trouver submergé. Mais il y a quelque chose, par exemple. Si Jésus est le centre dans notre tempête, c'est qu'il va y avoir une assurance que tout va redevenir équilibré et normal. C'est que la nuit ne va pas durer à toujours et que le jour va revenir. Lorsqu'on se met nous-mêmes au centre, il y a un déséquilibre. Et lorsqu'on le met, lui, au centre, il y a un équilibre. Parfois, il y a des moments, il y a des saisons. Ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit qu'il va pleuvoir et qu'il va faire beau sur les justes et sur les injustes. Il va y avoir des moments où on va être secoué. Ça peut être l'annonce d'un cancer. Juste quelqu'un qui apprend qu'il y a un cancer, qui doit passer au travers toutes les opérations. Ça transforme, ça vient bousculer l'identité, que ce soit relationnel, physique, émotionnel, que ce soit dans l'apparence de la femme. On est secoué, c'est vrai, on va faire face à des doutes, à des peurs, à des questionnements, à des douleurs, mais au bout de tout ça, on va toujours quand même aller puiser au centre, Dieu, une stabilité dans notre identité, dans notre cœur. Et c'est ça la volonté de Dieu. Vous savez, il y a des moments de tempête, il y a des saisons, mais ça ne doit pas être un style de vie. Moi, je parle ici, c'est vrai, on peut avoir Jésus au centre et vivre des moments difficiles, mais si votre vie est une perpétuelle course, une perpétuelle fatigue constante, un désarroi et un déséquilibre constant, là, il faut vous arrêter. Là, il faut que vous regardiez, vous vous posez la question, mais est-ce que Jésus est le centre de ma vie? Comment faire pour savoir si Jésus est le centre de ma vie? Bien, c'est pas compliqué. Il faut premièrement regarder, je cherche à faire la volonté de qui? À faire la mienne ou à faire la sienne? Comment savoir si je cherche à faire ma volonté? Eh bien, c'est pas compliqué. Souvent, c'est qu'on ne va pas consulter Dieu pour savoir quelle est sa volonté. C'est tout simple. Ou on va y aller, mais assez rapidement. On ne reste pas assez longtemps pour qu'il nous parle. Ou on va prendre un verset là, qu'on connaît. On va, parfois, c'est même pas dans le bon contexte, mais on va l'appliquer. On va dire, allez, j'y vais par la foi. Quelle est ta volonté, Seigneur? Est-ce que je poursuis la mienne ou la tienne? Vous savez, souvent, on veut faire des choses. Ce sont des bonnes choses, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais le temps, est-ce que c'est le temps de Dieu? Souvent, on se dit, je ne veux pas déranger Dieu. C'est des petites choses. Je vais aller à Dieu dans les moments de crise, dans les temps là où là, ça tourne, les courants sont différents, je dois vraiment prendre de grosses décisions. Je vais aller à Dieu, mais je ne veux pas déranger Dieu. Vous savez quoi? Vous ne dérangez pas Dieu. Et vous savez quoi? Dieu veut être dérangé. Il est venu à la croix, il a donné son Fils pour être dérangé, pour être en relation avec nous, pour qu'on soit dépendant de lui. C'est ça, être chrétien. Je ne dis pas ici qu'il faut chercher Dieu à savoir sa volonté pour savoir quelle sorte de confiture on va mettre sur notre pain le matin. Mais je parle de les petites choses comme les grandes choses. Quelle est ta volonté? Retenez bien ceci. Si vous grandissez à entendre et connaître la volonté de Dieu pour les petites choses, vous serez capable de l'entendre lors des tempêtes. Et vous savez, lors des tempêtes, il y a du bruit. Le vent souffle fort, il y a les vagues, il y a des gens qui crient, il y a plein de choses qui prennent place. Mais si vous avez été habitué d'avoir une vie où ce que votre priorité, ce qui est important pour vous, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté? » Et puis que vous vous habituez à entendre le son de sa voix, eh bien, lors des tempêtes, quand il y aura le plus gros des brouhahas, quand il y aura les plus grands vents, vous serez capable de l'entendre. Souvent, on voit lorsqu'on veut faire notre volonté, tout simplement parce qu'on se met devant. Je veux 5 enfants. Je veux 7 maisons. Je veux absolument travailler à temps plein ou à mi-temps. Je veux changer de poste. Je veux déménager. J'aime pas cet appart. Je veux être dans ce nouveau projet. Je veux m'impliquer là. Je veux retourner aux études. Je. Vous dites peut-être, mais Justine, de toute façon, tout ça, je le fais pour Dieu, je sers Dieu, je fais sa volonté. Si vous êtes constamment en train de courir, d'être submergé, d'être fatigué, si vous n'avez pas le temps d'avoir de relation avec Dieu, si vous n'avez pas le temps de voir votre mari et vos enfants, bien, je vais vous dire que non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Parce que si vous servez Dieu, bien, je vais vous dire, les gens alentour de vous, votre famille et moi, et la société vont dire, mais quelle sorte de Dieu est-ce que tu sers? Quelle est l'image qu'on veut donner de Dieu? Qui est Dieu? Souvent, on est plus souvent en train de faire notre volonté à nous. Vous savez, il y a des saisons dans la nature et il y a des saisons dans nos vies. Et Dieu respecte les saisons. Et Jésus, lui-même, a eu des saisons dans sa vie et il ne les a pas minimisées. Il y a eu des saisons de préparation pour son appel. Et il les a pris à cœur. Il les a bien vécus. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi en nous. On n'a rien à minimiser. Jésus, s'il aurait voulu maximiser et toucher le plus de monde possible et aller dans les coliséums et faire le plus de miracles, ben, il aurait dû commencer son ministère à 20 ans au lieu de 30 ans. Hein? On est beaucoup dans une société où il faut faire beaucoup, accomplir beaucoup, être là beaucoup. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut accepter les saisons dans lesquelles on se trouve. Il faut discerner les saisons dans lesquelles on se trouve. Et il faut aussi préparer les saisons qui s'en viennent. Il y a différentes saisons. Que ce soit celle de se marier, d'avoir des enfants, de reprendre des études, de devenir propriétaire, de rentrer dans le ministère, d'être à la retraite. On le sait que ça s'en vient. Parfois, on veut juste se mettre la tête dans le sable, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut qu'on accepte, qu'on discerne les saisons et qu'on se prépare. Parfois, on est dans une saison. Comment je pourrais vous expliquer ça? Souvent, même moi, la première, je me souviens, lorsque j'ai eu ma première fille, j'étais impliquée à plein d'endroits dans l'Église. Que ce soit le théâtre, la chorale, le comité, les groupes de prière, machin, j'étais partout. Et puis, j'aimais bien servir le Seigneur. Et quand j'ai eu ma fille, un enfant, ça change. Et j'ai continué à vivre comme quand je n'avais pas d'enfant. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à être comme ça. Parce que je m'épuisais moi-même et ce n'était pas bon pour mon enfant. Et lorsque je me suis arrêtée, je me sentais inutile. Je sentais que je perdais mon temps à être au parc, à lancer un ballon. Et au lieu d'en profiter, d'être joyeuse, de me dire « Merci Seigneur, tu m'as donné un enfant en santé » et d'investir et de croire qu'il y a des choses merveilleuses, je me culpabilisais parce que je trouvais que j'en faisais pas assez, que j'étais pas assez. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Et vous savez, pour certaines, je crois que ça peut être quand on se marie. On avait notre vie de femme célibataire, où on allait au gym à tous les soirs, on voyait nos copines 3 fois par semaine, on était impliqués dans 60 trucs à l'église, et là on se marie et on continue à faire le même truc. Non, il y a un ajustement. Dans chaque saison, il y a un ajustement. On peut pas, êtes-vous d'accord avec moi? Je ne peux pas décider de me promener en bikini l'hiver, d'aller faire mon shopping. Je ne peux pas. J'ai besoin de m'ajuster. Et c'est la même chose. Il y a des ajustements. Il faut discerner. Vous savez, souvent, on pousse, on tire pour plein de choses. Pour des vacances qu'on veut, pour une maison qu'on veut. Souvent, on vit de grands découragements et d'insatisfaction simplement parce que Jésus n'est pas le centre. Une chose que je peux vous dire, c'est que si vous faites de Jésus le centre parfois, ça va vous demander une foi illogique. Parce que parfois, souvent, les valeurs et les principes de Dieu sont complètement contraires à ceux de la société. Alors, vous allez sentir que vous vivez à contre-courant de bien des gens. Mais souvenez-vous de ceci, que lorsque Christ est au centre, votre identité va être équilibrée et harmonieuse. Moïse a demandé « Qui suis-je? » et Dieu a répondu « Je suis avec toi. » Vous savez, ce que nous sommes à nos propres yeux et aux yeux des autres, pour Dieu, par la réponse qu'il a donnée à Moïse, Dieu est en train de nous dire « C'est pas important. » C'est pas important ce que tu penses que tu es. Et c'est pas important ce que les autres pensent aussi de toi. Ce qui est important, c'est que tu saches que je suis avec toi. Emmanuel, Dieu parmi nous. Que c'est par moi que tu vas pouvoir faire et accomplir les choses. Les manques, tes manques, tes carences, je m'en occupe. Le cœur de Dieu et la réponse de Dieu est encore la même chose aujourd'hui. Je suis avec toi. Au-delà d'entretenir une identité passagère, fortifie notre moi, Dieu veut vraiment venir fortifier notre être intérieur et se glorifier. Tu as été créé pour moi et pour que je vive au travers de toi. Je veux juste terminer avec ceci et après, je vais illustrer ce message. Je pourrais vous raconter une superbe histoire, mais j'ai décidé d'avoir l'histoire en live avec nous. Et tout à l'heure, je vais inviter une bonne amie à moi, Claire, vous allez avoir l'impression que vous voyagez, parce que moi, j'ai un accent québécois, et elle a un accent suisse. Donc, on est en train de faire un grand voyage aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire ceci, que Dieu... Je veux vous dire ceci, je l'écris. L'homme a besoin de connaître sa valeur et cherche la reconnaissance de celle-ci et ses capacités de la part des autres. Et Dieu veut justement nous décharger de ce poids inutile d'essayer d'être plus et de faire plus. Dieu veut vous dire, tout dépend de moi, regarde à moi, demande-moi, fais de moi le centre de ta vie. Il est fidèle et il va veiller sur votre vie en tant que femme. La preuve, il le fait, vous êtes ici, vous avez un moment que pour vous qui vous fait du bien. Amen. Il a pourvu les gardiennes, l'argent, la voiture, le planning, le travail, que les gens disent « oui, je te remplace, machin ». C'est Dieu derrière tout ça qui est en train de prendre soin de votre vie en tant que femme, de votre féminité. Et c'est ça. C'est tout simple. Je sais que c'est très simple. Peut-être vous dites « ah, c'est tellement simple ». Mais si on pourrait… Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont simples, qu'on connaît, qu'on croit, mais de les vivre à tous les jours… l'impact que ça peut avoir. Alors demain, quand vous allez vous lever, quand vous allez être face à une décision, il faut retourner à lui. Dire, ah, c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait pour cet atelier. Je ne me sentais pas à la hauteur de cet atelier. J'en ai entendu des voix quand j'étais là, puis que tout le monde chantait. Moi, j'avais des larmes, pas parce que j'étais en train d'adorer Jésus, parce que j'avais peur de l'atelier que j'étais pour faire. Ah, mais je me suis dit, ce que Thérésa, elle a dit, ben, je vais le faire. J'étais allée dans ma chambre d'hôtel et j'ai dit, « Mais là, Seigneur, on a beaucoup d'échanges à faire. » Donc, je vais te donner mes peurs, je vais te donner tous ces trucs. Et vous savez, les femmes, hein, on est facile à se comparer. On compare nos chaussures, la silhouette, les cheveux, elles n'ont plus, sont épais, elles sont pas épais. On compare. Il ne faut pas comparer. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, « Qui es-tu? Quel est ton nom? » Il a dit « Je suis ». Et ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'il est tout. Je suis la sagesse que tu as besoin, l'intelligence, je suis la mémoire. C'est ce qu'il est en train de faire là avec moi parce que moi, je n'ai vraiment pas de mémoire. Même parfois, je me sens mal à l'église, il y a plein de femmes et des fois, les noms, je les mélange et je me dis « Oh, elles doivent dire, non mais la femme du pasteur, est-ce qu'elle n'a pas de mémoire? » Mais c'est vrai. Mais il va être notre opportunité. Je suis ton pardon, je suis ta chance, je suis ton chemin, je suis la vérité, je suis ton bonheur, je suis ta paix, je suis ta joie, je suis l'amour. Toutes ces choses-là, il a dit « je suis ». En disant « je suis », c'est comme tu as tout, tu as, comme on dirait chez nous, tu as tout le package, tout est inclus. Et Jésus, lorsqu'il s'est retrouvé au jardin de Gethsémané et que la cohorte est venue devant lui, vous savez ce qu'il a dit? Il le cherchait. Nous, on lit dans notre Bible que Jésus dit « c'est moi ». Mais en grec, c'est « ego emi ». Et Jésus a dit « je suis ». Et lorsqu'il a dit « je suis », en se présentant devant la cohorte, et en passant la cohorte, ce n'était pas 5 petits messieurs avec une petite épée qui étaient là, alentour, on vient de chercher, c'était 600 à 700 personnes, plus les pharisiens, plus les disciples, plus toutes les gens. Et lorsqu'il a dit « je suis », qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tous reculé, ils ont tous tombé par terre. Donc, lorsque Dieu dit « je suis avec toi, je suis en toi », c'est pour nous aider, mais c'est aussi pour faire reculer l'ennemi. Comme Thérésa nous a parlé ce matin, exactement la même chose. Et le plus merveilleux, c'est qu'elle ne savait pas ce que j'étais pour partager. Elle savait un petit peu, j'avais donné juste le verset, mais la pensée est exactement dans la même direction. Alors voilà, c'est tout simple. Je crois que c'est la parole qu'on a besoin parce que chacune de nos vies sont différentes, nos défis sont différents, notre contexte est différent, nos horaires sont différents. Donc, je ne peux pas vous arriver avec des schémas, prenez une heure par semaine pour vous, mesdames, allez au coiffeur et après votre mari. Non, au pied de Jésus, le Seigneur va prendre soin de tout ça et il va vous montrer, parfois il va dire, c'est le temps de prendre plus de temps avec ton enfant, c'est le temps de te faire une petite soirée romantique avec ton mari, c'est le temps de peut-être, là tu ne devrais pas t'impliquer cette année là à l'église parce que tes enfants ont besoin de toi là. Ah là c'est le temps, tu sais, tes enfants sont partis, non, non. Ah, ce serait bien si tu pourrais aider telle sœur à l'église. Dieu, si vous faites le centre, si vous voulez vraiment qu'il gère votre vie, il va vous parler. Ayez juste la foi qu'il va vous parler. Amen. Alors, je vais demander à mon amie Claire qu'elle vienne tout simplement donner son témoignage. Et par la suite, je sais que vous aimeriez avoir une période de questions. Mais je ne sais pas si vous réalisez, nous sommes 500 femmes dans ce lieu. Donc, si on ne veut pas être ici jusqu'à demain matin, ce que nous allons faire, c'est au lieu que vous posiez des questions, vous allez vous poser des questions à vous-même. Parce que souvent, c'est facile, hein? On arrive au micro, on se dit, je vais poser la question et là, elle va me dire tout ce qu'il faut que je fasse, puis enfin, ma vie va changer. Non. On va vous passer un petit feuillet suite à son témoignage et vous allez vous poser des questions. Et par la suite, on va prendre un temps de prière ensemble que Claire va vous expliquer aussi. Voilà.
Voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je vais essayer d'être rapide. Mais j'aimerais juste, c'est vrai, donner l'illustration vivante de ce que ça provoque de perdre le centre en Jésus. J'aimerais dire que c'est une grâce pour moi. Il y a 8 ans en arrière, mes amis n'auraient jamais imaginé que je m'engage concrètement et réellement avec Jésus. J'étais chrétienne, j'avais l'étiquette. Je suis née dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas le contenu. En tout cas, je l'avais perdu. J'ai donné ma vie à l'âge de 16 ans à Jésus, mais rapidement, je pense comme beaucoup de jeunes filles, les paillettes du monde ont attiré mes regards, mes pensées et mon centre. Donc toutes les choses ont pris la place de Jésus et se sont venues mettre le désordre dans les planètes, n'est-ce pas? Et c'est dans ce désordre-là que je me suis mariée, en pensant, peut-être comme peut-être quelques-unes parmi vous, que mon couple allait être la petite maison dans la prairie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, je suppose que vous aussi, vous avez dû vous rendre compte que malheureusement, ça marche dans les films, mais ça ne marchait pas dans ma vie. Alors, très rapidement, puisqu'on avait déplacé l'axe de la planète, eh bien, je suis partie dans le dérèglement. Je suis devenue... j'étais surtout aigrie, j'étais insatisfaite. On a eu des enfants, je pensais que ça allait s'arranger. Mais en fait, comme a dit très justement Justine, j'avais l'impression que mon mari ne faisait jamais exactement ce que j'attendais. Et je dois dire qu'encore une fois, c'est une grâce qu'on est encore mariés, 38 ans de mariage, parce que je pense que mon mari aurait souvent pu prendre la porte d'épuisement avec une femme insatisfaite comme je l'étais. Alors pour remplir cette insatisfaction, je n'avais pas réalisé que je faisais cette démarche pour remplir ce vide, mais pour remplir ce trou, puisqu'il y avait le déséquilibre, vous savez bien, il suffit d'un degré pour ne pas atteindre la cible, eh bien, je me suis lancée à corps perdu dans beaucoup de hobbies. La plongée, les voyages, je partais, et j'essayais de remplir ce vide en moi dont je n'avais pas conscience. Je me suis lancée à corps perdu dans la cuisine, qui est devenue une activité... qui me rapportait de l'argent, une activité séculière. Je recevais, j'avais toujours des projets en avant. Sans projet, j'avais l'impression que la vie s'arrêtait. Et dans toute cette histoire, mon pauvre mari subissait une femme constamment insatisfaite. 3 enfants, une situation de couple parfois à la limite de la rupture, mais le Seigneur avait quand même toujours un œil. Et j'ai accepté avec mon mari, surtout lui a accepté, il y a 8 ans en arrière, de participer à un séminaire chrétien sur le couple. Je vous ai dit, je n'ai jamais quitté l'Église, donc aux yeux des autres, j'étais chrétienne. Mais ça n'allait pas à l'intérieur. Et on a accepté de suivre ce séminaire pour couple. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ce n'était pas une grande extase. Ça n'a pas été une révélation. Mais je sais juste que Jésus, avait un rendez-vous avec moi. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a déposé une soif et une faim. Comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis des années, pour la Bible, pour sa parole. Et je me suis mise à la lire avec une... Mais j'étais affamée d'une parole qui change ma vie. Alors, je lisais ma Bible, et puis chaque fois que je lisais quelque chose, je me disais, oh, mais bien sûr, tu me dis ça, il faut que j'obéisse. Et ça, c'est une clé aussi quand même importante. Obéir à ce que Dieu vous demande, vous le voyez dans sa parole. Alors tous les matins, je me réjouissais de recevoir ma manne de tous les jours. Comme le peuple d'Israël, la manne ne peut pas être utilisée le lendemain. Il en fallait une nouvelle dose. Cette relation qui nourrit. Et vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une immense paix. La Claire qui courait tout le temps, elle s'est arrêtée. Et puis je me suis posée. Et enfin, j'ai reçu la paix, cette paix. Cette paix qui est le thermomètre de votre vie. Si vous n'avez pas la paix, arrêtez-vous. Et au bout de 2 ans, après mon réveil, j'ai même dit au Seigneur, « Je te donne tout, mon travail, mes voyages et mon espoir de parler l'anglais. » Je barouinais quelques mots. Et c'était toujours, comme j'étais tout le temps en attente de quelque chose, j'espérais toujours mieux, 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 mieux dans la société, mieux partout. Là, j'ai dit, Seigneur, je te donne tout, mais si tu veux que je reste à la maison, il faut que tu me transformes. Et il faut que tu m'aides. Si tu veux que je reste à la maison pour prier, ben, change-moi. C'est beau, le Seigneur, il sait qui on est. Il sait ce qu'on peut supporter et ce qu'on ne peut pas supporter. Et le Seigneur m'a changé, mais il m'utilise quand même, puisque je travaille pour Portes Ouvertes aujourd'hui. Je voyage et j'ai appris l'anglais. Et non seulement ça, mesdames, d'abord, ce n'est pas qu'à moi que ça peut arriver, c'est à toutes. Il a transformé les personnes dans ma famille. Et toute la famille est impactée par ce que Dieu a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je savais que c'était très dur à dire parce que c'est tellement incroyable. Mon fils est à ce mythe. Il est dans l'école de David Wilkerson, dont Teresa est la directrice. Juste parce que j'ai accepté de dire « je te donne tout ». Le Seigneur, il sait, il peut utiliser chacune. Je donne tout. Je viens chercher mon pain tous les jours parce que j'ai faim de cette relation qui nourrit. Elle me nourrit, j'ai faim et si je ne l'ai pas, ça me manque. Et comme le Seigneur est incroyable, j'ai ouvert mon mail avant-hier, comme quoi ça peut toucher toutes les bonnes chrétiennes, ce dont je vous parle. Parce que j'ai lu quelque chose qui... Moi, j'ai sauté de joie. J'ai dit, Seigneur, t'es incroyable. Quand Dieu parle, comme moi, t'est-il déjà arrivé de te dire, excusez-moi, c'est une femme engagée, chrétienne, dans le ministère, qui écrit ça dans sa lettre de nouvelles. Comme moi, t'est-il déjà arrivé de te dire que ton temps avec Dieu ne te nourrissait pas? C'est ce que j'exprimais à mon Dieu la semaine passée. Et voilà sa réponse. Tu le fais sans moi. Réponse qui m'a surprise, dit mon amie, mais qui m'a montré combien même de bonnes habitudes peuvent ne pas porter de fruits. Je lis ma Bible, je prie, mais est-ce que j'ai conscience que Dieu est là, dans ces moments ? Et désire me parler? Est-ce que je vis réellement ce temps avec lui, dans la relation, dans l'écoute et dans le partage? J'ai dit merci Seigneur, parce que tu me donnes encore la preuve qu'on peut avoir l'étiquette, mais ne pas être nourri. Elle avait simplement pris conscience et Dieu va répondre, bien sûr, si vous êtes consciente que votre relation ne vous nourrit pas, vous avez faim, alors il faut retourner à la source. Et Dieu va continuer de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Teresa a dit. Il va ouvrir des portes. Il a ouvert des portes que jamais, jamais j'aurais imaginées. Jamais j'aurais pensé être devant vous ou devant l'école de Summit à partager ce que Dieu avait fait dans ma vie. Il va vous surprendre toutes. Et notre prière, et je crois la prière de toutes celles de cette conférence, c'est que vous soyez prêtes à lâcher tout. Ça fait peut-être peur, mais Dieu a tellement plus en réserve pour vous. Alors, où est Justine maintenant?
Donc, je vais demander à toutes les dames qui ont les petites feuilles de les passer. Je veux juste vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque j'ai dit que ce n'est pas important qui nous sommes à nos yeux, c'est vrai, mais vous êtes, croyez quelque chose? C'est que Dieu ne veut pas qu'on ait nos yeux sur nous-mêmes, mais nous sommes précieuses et nous sommes importantes pour lui. Parce que la preuve, c'est qu'il a donné sa vie et il habite, il a décidé d'habiter en nous. Donc, nous sommes extrêmement précieuses. Mais c'est juste que, j'espère que vous avez bien compris, je me suis dit, ah, j'espère que les dames ne vont pas partir d'ici et qu'elles vont se dire, ah ouais, ben on est rien. Non, non, non. Il est en nous, il est avec nous. Donc, on a, oui, un grand potentiel, mais nous sommes précieuses. Amen. Donc, je veux que vous preniez le temps. Ce n'est pas de le remplir rapidement. Remplissez cette feuille, pas avec votre voisine, c'est entre vous et Dieu. Vraiment, arrêtez-vous. On vous donne un bon 5 minutes. Cherchez pas, s'il y a une question que vous ne voulez pas répondre, vous ne la répondez pas. Mais vraiment, prenez un temps, c'est entre vous et Dieu. D'accord?